Que ce soit pour mieux comprendre comment ne pas agir comme on l'a fait avec José, cette personne autiste arrêtée pour des crimes presque dérisoires, ou simplement pour se questionner sur les droits des personnes autistes, qu'on reçoit notre juriste à domicile, Laurent Trépanier-Capistran. Bonjour.
Bonjour, Benoît.
Content que tu sois de retour avec nous, là, même si Clotilde Sel t'avait piqué cet été.
Oui, j'essaie de me dédoubler, là, de participer à toutes les émissions que vous me proposez. C'est toujours un plaisir.
Bon, content. On parle, entre autres, des personnes autistes. Quels sont leurs droits, évidemment, quand ils commettent des crimes? Là, on s'entend, c'est ça le contexte. Là. Quels sont leurs droits, Laurent Trépanier-Capistran?
Bien, en fait, c'est important de dire que les personnes qui sont atteintes du trouble du spectre de l'autisme, et là, je vais employer peut-être aussi la contraction, le TSA, en fait, ont les mêmes droits que tout le monde. Ça, je pense que c'est vraiment primordial de le rappeler. Puis le vrai enjeu ici, c'est peut-être plus d'obtenir la reconnaissance de ces droits-là dans la réalité ou une application qui est, disons, adaptée à les situations qu'ils vivent, parce que c'est bien évident que c'est pas parce qu'on possède un droit qui va nécessairement être reconnu pleinement ou appliqué dans la société ou par la société. Donc,
comme vous dites souvent, les personnes ont des droits, mais des fois, les lois puis les règlements les reconnaissent pas.
Effectivement. Bon. Des fois, il y a une problématique à ce niveau-là.
OK. Alors, quand un crime est commis là, par une personne qui est à risque d'être reconnue comme, là, l'expression on l'entend souvent, non criminellement responsable. Là, je veux pas faire de mélange, là, je vous avertis, personne à la maison, mais dans la loi, il y a le mélange. Donc, si on a une personne qui a un trouble du spectre de l'autisme ou qu'on a un problème de santé mentale, on est dans la même case, le plus ou moins. Je veux juste le rappeler pour le dire. Donc, Laurent Trépanier-Capistran, comment on fait pour départager tout ça?
Bien, en fait, en ce qui concerne, là, parce que quand on en pense à non criminellement responsable, souvent dans l'esprit des gens, en fait, ça l'évoque qu'on ne se retrouve pas en prison ou pénitencier. Hein, donc, on n'est pas emprisonné. C'est important de faire une distinction parce que soit qu'on est envoyé à la prison ou à l'hôpital, ça relève de conséquences de décisions judiciaires qui sont différentes. Ouais. Donc, soit on est déclaré coupable et à ce moment-là, pas dans tous les cas, mais dans plusieurs cas, on peut être emprisonné, ou on va être déclaré non criminellement responsable. Dans ce cas-là, on peut être aussi détenu, mais on va plutôt être dirigé vers l'hôpital ou des services en psychiatrie. Mm-hmm. Qu'est-ce qu'on entend par non criminellement responsable? C'est important de démystifier ce terme-là parce qu'on l'a beaucoup entendu avec
Guy Turcotte.
Guy Turcotte, entre autres, et là, ça l'a marqué les esprits. Donc, en fait, non criminellement responsable, ça correspond à une personne qui ne sait pas faire la distinction entre si le geste qu'elle a commis, c'est un geste qui est bien ou qui est mal. Autrement dit, la personne, elle doit comprendre que ce qu'elle a fait, c'était mal pour pouvoir être déclarée coupable. Mm. Si elle n'est pas en mesure de faire cette distinction-là, si elle n'a pas le jugement nécessaire pour faire cette distinction-là, à ce moment-là, on va la déclarer non criminellement responsable. Non criminellement responsable, Benoît, ça n'équivaut pas à un acquittement. Ça veut simplement dire que, finalement, ce qui va se passer, c'est que notre dossier ne sera pas pris en compte par la justice ou le système, en fait, carcéral. Ce qui se passe généralement, c'est qu'on est référé à une commission d'examen, donc qui comprend 5 personnes dans la plupart des cas, dont au moins un psychiatre, et que cette commission-là étudie le dossier précis de l'individu avec 2 objectifs bien précis en tête. C'est-à-dire de traiter les troubles mentaux ou les problèmes d'ordre psychiatrique qui sont vécus par cet individu-là.
Oui, parce que la personne a besoin d'être traitée.
A besoin d'aide. Voilà. C'est pour ça qu'elle s'est désorganisée puis qu'elle a commis un délit ou un crime. Et ensuite, c'est bien important aussi de le dire à vos auditeurs, c'est que ça vise à protéger le public. Donc, si jamais il y a un danger pour la société que cette personne-là soit libre, la commission va prendre une décision pour restreindre sa liberté ou carrément la détenir, mais souvent dans un hôpital ou un endroit où elle va pouvoir recevoir des services particuliers relatifs à ses problèmes d'ordre psychiatrique ou ses problèmes de santé mentale, en fait.
Donc, quand ça arrive, quand ces personnes-là commettent des crimes, bon, puis on les reconnaît, etc., est-ce qu'il y a des solutions à préconiser, pas juste quand la personne est arrêtée, là, avant, puis en tout cas, vous comprenez ce que je veux dire?
Oui, bien, en fait, souvent la personne va être arrêtée malgré tout parce que le système judiciaire doit se rendre compte hein, qu'il s'est passé quelque chose. Et puis, il existe, c'est pas toujours appliqué, mais il existe un programme de déjudiciarisation. Donc ça, la déjudiciarisation, c'est lorsqu'on a un dossier qui, après ma barre, est judiciarisé. Donc, par exemple, il y a eu une infraction qui a été commise puis une accusation qui est portée contre cette personne-là, eh bien là, à ce moment-là, on peut utiliser un programme de déjudiciarisation, c'est-à-dire qu'on va remplacer le processus judiciaire par une autre alternative. Par
Mais ça arrive souvent, ça? Parce que ça veut dire que la personne n'est pas acquittée?
C'est-à-dire qu'on va
aller un peu?
On va lui dire, en fait, si vous vous soumettez à ce programme-là, finalement, vous ne passerez pas au travers du processus judiciaire. C'est pour ça qu'on dit qu'on la sort un peu de ce processus-là.
OK. Ça, c'est dans des circonstances très précises, vous allez
dire. C'est dans des circonstances très précises, c'est ça. Je pense, par exemple, au programme qui s'appelle, un long nom, mais il s'appelle Programme Accompagnement Justice Santé Mentale. Et puis ça, ça vise les infractions qui sont sous la juridiction de la cour municipale. Donc, on peut penser à
des plus petits délits.
On parle pas de meurtre, évidemment. Et puis, ça s'adresse aux personnes qui sont aux prises avec des problèmes de santé mentale.
Okay.
Après vérification auprès du ministère de la Justice, on nous dit aussi que les personnes qui ont un TSA, donc un trouble du spectre de l'autisme, sont admissibles à ce programme-là. Donc ça, ça peut être une alternative qui peut être à préconiser, mais évidemment, tu le soulignais tout à l'heure, Benoît, ça c'est dans un contexte où la personne fait déjà l'objet d'une judiciarisation et qu'on déconstruit un petit peu ce phénomène-là, donc on n'est pas dans une optique de prévention ici.
Oui, OK, bon, fallait le spécifier parce que j'ai eu l'air de dire ça, c'est pas ça que je veux dire, mais donc, ce dont vous parlez, cette espèce de déjudiciarisation, serait applicable probablement pour le cas de José.
C'est toujours difficile de se prononcer sur un cas qu'on a lu dans les médias.
Donc,
mais oui, effectivement, ça, c'est des choses qui, si on parle globalement, en fait, peuvent être appliquées pour les personnes qui ont des problèmes de santé mentale.
Mais c'est une option.
C'est une option, et puis c'est une option qui gagne à être connue, en fait.
Ben, content que vous l'ayez fait connaître. Est-ce que ça a marché jusqu'à maintenant? Il nous reste peu de temps, mais ces mesures-là dont vous parlez, que ce soit la déjudiciarisation ou peut-être la reconnaissance de la non-criminellement responsabilité, est-ce que ça fonctionne en ce moment, en quelques mots?
Des verdicts non-responsabilité criminelle, il y en a plusieurs. Ça l'arrive, ça fait partie du système. Sauf que je me rapporte un peu au cas de José, ou du moins ce que ça l'évoque. Et puis, il faut dire que, bon, c'est peut-être que les besoins, en fait, de ces personnes-là sont davantage au niveau de la santé et des services sociaux, plus qu'au niveau de besoins juridiques.
Ouais.
On semble être confronté un petit peu à un échec du réseau de la santé et des services sociaux, ou du moins ce qu'on peut sentir comme étant ça, parce qu'il n'y a pas de réponse aux besoins qui ont été exprimés par cette personne-là, ou ces personnes-là, devrais-je dire. Et puis, évidemment, le système judiciaire n'a pas su corriger cette erreur-là. Puis, encore une fois, comme ça l'arrive souvent, on a pu constater qui n'est pas tout à fait adapté à la réalité et encore moins à celle des gens qui sont plus vulnérables, il faut le dire, c'est important de le rappeler.
Bien, vous vous accordez avec Benoît Côté du PECH qui était avec nous plus tôt. Il faut travailler en amont, il faut aider les personnes avant de les mettre en prison.
Tout à fait.
Merci beaucoup, Laurent Trépanier-Capistran, juriste pour Juriste à domicile.
Merci à vous.